Eh bien, nous y sommes. Nous voilà au kilomètre zéro de notre remontée de la Seine, de la source jusqu'au Havre. Eh bien, j'aime mieux vous dire qu'il faut avoir beaucoup d'imagination. Et c'est une imagination que je vous souhaite parce que cela ne ressemble absolument à rien. On se dit que la Seine aurait mérité mieux une chute d'eau, un torrent de montagne, quelque chose. Quand même, c'est le fleuve des Vikings, c'est le fleuve d'Arsène Lupin, c'est le fleuve des impressionnistes, c'est le fleuve des incendies, des faillites, des révolutions. L'origine de la Seine, la source de la Seine, ne paraît pas à la hauteur et l'on ressent ici la même déception que celle du narrateur de La Recherche du Temps Perdu devant les sources de la Vivonne. Nous sommes, Vincent et moi, dans une sorte de réduction en plâtre des buts de Chaumont qui se prolonge en petit marécage municipal sur lequel on voit le premier pont de la Seine qui enjambe ce qui est à peine un cours d'eau. C'est une grotte, un peu comme une sorte de grotte de Lourdes, but de Chaumont, ou peut-être un peu moins d'ailleurs, presque une grotte du parc Monceau. Et dans la grotte, il y a la source, et la source est ornée d'une statue de la déesse Sequana. Sur la partie gauche de la grotte, on peut voir une plaque en marbre qui dit que Napoléon, empereur des Français, il s'agit de Napoléon III, sur la proposition de monsieur le baron Haussmann, sénateur, préfet de la Seine, grand croix de la Légion d'honneur, a érigé ce monument, le monument qu'on voit devant nous là, à la déesse Sequana, aux sources du fleuve. Pourquoi ? Parce que ce fleuve, dit la plaque, a donné son nom au département de la Seine et auquel Paris doit son antique prospérité. Ici commence donc, en réalité, notre long voyage sur le cours de la Seine. Et ce voyage est un prétexte parce qu'au fond, au risque de choquer, on va dire que je pense que la Seine ressemble à sa source. La Seine, ça n'est pas le Rhin, ça n'est pas le Danube, c'est d'abord un élément pour le rêve. Elle a inspiré quelques poèmes, elle a inspiré quelques tableaux, mais au fond, ces artistes, les peintres, les musiciens, les écrivains ou les cinéastes lui ont le plus souvent tourné le dos, si bien qu'elle a fini par représenter pour moi ce hasard qui nous a fait naître français, un hasard que nous finissons par aimer pour lui-même, dans l'impossibilité heureuse de définir vraiment ce qu'est la France. J'ai remonté la Seine en compagnie d'un étranger, d'un peintre russe exilé en France vers 1920, qui s'appelait Agram Bagramko, peintre affilié au mouvement surréaliste, et je vous en parlerai souvent au cours de ce voyage. Parce que toute patrie est un exil, et d'abord celle que l'on a reçue en partage, j'ai aimé Agram Bagramko comme un frère. 2 ans avant de réaliser son célèbre triptyque des sources de la Seine, qui est conservé au musée d'art moderne de Vancouver, Bagramko a publié au Sans Paris un petit livre, qui commence exactement ici, un petit livre de souvenirs, qui s'appelle « Ma source, la Seine », et c'est ce livre que nous allons suivre en remontant le fleuve. J'espère n'être pas trop infidèle à sa mémoire, et comme disait Anatole France au début de La rôtisserie de la reine Pédoc, un livre que Bagramko aimait, parce qu'il le trouvait à la fois loufoque et profond, on lit ceci « Je ne suis pas très instruit dans la cabale, mon maître ayant péri au début de mon initiation. » Il y a malgré tout dans ces régions comme une sorte d'énergie, une espèce de chaleur originelle qui saisisse le voyageur en dépit des toits en tuiles et de l'élégance et du raffinement bourguignon. Ou plutôt, on a l'impression que les toits en tuiles et le raffinement bourguignon sont comme un vêtement posé sur un corps agile et robuste, comme un corps barbare. C'est une impression qu'on éprouve souvent en Bourgogne. Ni les druides, ni Saint-Bernard ne sont jamais loin. Et on pense que si les moines ont établi tant d'abbayes dans ces vallons, en particulier l'abbaye des Sources de la Seine, qui est située juste un peu en amont, c'est qu'il y avait là-dedans, dans cette vie presque sauvage, bien des violences à racheter, bien de la passion à revendre, et qu'il fallait non pas éteindre ces passions, mais les convertir, c'est-à-dire les tourner vers d'autres buts et les civiliser. Alors les civiliser, jusqu'à édifier en effet un parc de genre 1850 à proximité des Sources de la Seine, c'était peut-être un peu trop, mais cette contradiction, après tout, entre la grandeur et la futilité, fait aussi partie de notre génie national. Je reviens donc à la Seine, à l'endroit où nous sommes. Il y a une chose assez saisissante quand même, c'est que, en France, l'administration commande à la réalité. Ce qui fait que ce parc se trouve, contrairement à toutes les apparences, à l'intérieur de Paris, par la grâce d'un acte de cession de 1804. C'est ainsi que quand on arrive, après avoir traversé une sorte de gigantesque forêt gauloise avec des apics et des perspectives absolument magnifiques, sans d'ailleurs voir grand monde. Il y a un côté nouveau monde dans la vallée de la Seine près de Châtillon-sur-Seine. Ces forêts immenses, ces plaines immenses, à peine une grosse ferme éparse de temps à autre. Quand on a traversé ce paysage véritablement des temps primitifs qui évoque les grands maîtres de la littérature médiévale, le Girard de Châtillon, quand on a traversé ce paysage, eh bien on arrive sur le bord du vallon de la Seine et on voit écrit « Ville de Paris ». Source de la Seine. contrairement à toutes les apparences, puisque nous ne sommes évidemment pas à Paris. Ce qui fait que cette scène est ordonnée à la capitale qui lui a rendu célèbre alors même qu'elle lui tourne souvent le dos. Et au fond, c'est vrai qu'il y a un côté dans la scène qui rappelle toujours Paris, que l'on soit à Rouen ou que l'on soit ici. Les vanités d'Haussmann, dont il est fait mention sur cette plaque, les plaisirs de la fête impériale et la fumée bleue des cigares dont a parlé Rimbaud. Après la gloire bourgeoise du nymphée avec la déesse Sequana dont j'ai parlé, les débuts sont très très modestes. L'eau coule en bas du muret. C'est un mince filet qui transforme les deux premiers plateaux en petits marécages. Et puis après, on quitte le domaine de la poésie haussmannienne pour entrer dans le domaine de l'agriculture, avec plus bas des rideaux de peupliers qui ouvrent tout d'un coup sur des champs déserts qui font naître le souvenir assez sinistre d'un célèbre roman de Zola qui s'appelait « La Terre ». Dans son livre, ma source, la Seine, Bagram Kaur tourne le dos à cet univers de la dureté de vivre et de la condition paysanne, non pas qu'il fût insensible au spectacle de la misère, mais il ne pensait pas, c'est l'une de ses leçons de son livre, qu'il y ait quoi que ce soit à apprendre, au moins de la dureté que la misère fait naître. Et c'est la première leçon qu'il m'ait donnée sans le savoir. L'ayant reçu et l'ayant médité devant les sources de la Seine, je peux à présent vous souhaitez de nous accompagner au cours des jours et des semaines qui vont suivre, avant de vous rendre l'antenne en empruntant pour un instant la voix d'un autre grand russe qui a enchanté notre jeunesse.
Nous sommes ici aux sources de la Seine. À vous, France Culture.
Et je n'ose dire,
à vous, Cognac Jay. À vous, les studios.
Au cours de cette émission, nous avons eu deux interruptions de l'image dont nous vous demandons de vouloir bien nous excuser.